Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Deuxième partie, pages 55 à 61. Introduction. La porte tremblait sous les coups. 5 coups frappés du tranchant d'un poing serré. Rien qui ressemble à la requête respectueuse d'un ami qui vous rend visite, qui toque à votre porte du geste discret d'un index replié. Les 5 coups brutaux nous ont surpris. On figeait nos gestes. Une sourde angoisse flottait dans l'air que cette subite violence rendait épais. L'appartement ne résonnait pas du son qu'avaient produit ces assauts contre la porte. Les murs se faisaient plutôt l'écho d'un impératif, d'un ordre sans appel, du masque hideux d'une menace imminente. Ma mère a essuyé ses mains sur son tablier de cuisine, puis elle s'est dirigée vers la porte qu'elle a ouverte à moitié, en penchant la tête pour scruter dans l'embrasure. 2 hommes au regard sévère, habillés des longs manteaux de cuir noir des SS, encadraient mon père. Son regard fier, presque insolent, nous lançait des signes d'encouragement, comme s'il nous disait « Ne vous en faites pas, tout ira bien ». Mais ses traits, prématurément vieillis, ne mentaient pas. Son triste sourire, son visage défait et son dos courbé. Tous, engloutis dans une désespérante soumission, parlaient sans un mot d'une impuissance résignée. Quand il s'est mis à genoux pour me prendre dans ses bras, je l'ai entouré comme j'ai pu. Comme un enfant de 12 ans comprend une fatalité sans vraiment y croire, comme on fait pour dire un au revoir qui serait un adieu, et je l'ai serré fort. Deuxième partie, Jean-Jacques. Gambetta, inscrit sur le fronton de pierre de son école, il s'en souvient. Ce nom traînait au coin d'une rue de son enfance, parmi d'autres souvenirs gravés en creux dans sa mémoire. Le cuir brillant des bottes allemandes, la carrosserie noire d'une voiture qui s'éloigne. Dans la maison qu'il louait à Caen, la chambre de ses parents était la première accessible. Il fallait juste grimper une volée de marches pour la trouver sur le palier du premier étage. Puis l'escalier continuait son ascension jusqu'au niveau supérieur où Jean-Jacques partageait sa chambre avec l'une de ses sœurs qu'il surnommait Mayette. Pour rendre les choses plus faciles dans l'intervalle de cet entre-deux-guerres, ses 2 autres sœurs habitaient chez leur grand-mère. Les revenus trop modestes ne suffisaient qu'à satisfaire l'essentiel ou l'indispensable, rarement les 2. Et nourrir une famille de 6 personnes réclamait à la fois l'un et l'autre. Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée donnait sur le séjour et la cuisine, plutôt petite. Une autre porte derrière la maison s'ouvrait sur une cour que partageaient plusieurs habitants du quartier. Il avait 7 ans quand il a rejoint l'école. Chaque matin, il partait avec un groupe de filles, dont sa sœur aînée, qui, le soir, l'attendait à la sortie des classes. Ses allées et venues en groupe, du domicile à l'école, durèrent jusqu'à ce soir-là, où plus personne ne l'attendait. Il avait beau regarder à gauche, et puis à droite, et encore à gauche, personne. Il se retrouvait seul, tout seul, au seuil de l'école, au bord des larmes. Puis il se dit que ça ne servait à rien de pleurer, que le chemin pour revenir à la maison, il l'avait fait plusieurs fois, et que certainement il le reconnaîtrait. Il suffisait de le suivre de mémoire, ce qu'il fit, seul et fier de lui, parce que depuis ce jour, il n'avait plus besoin de filles pour retrouver son chemin. L'art nouveau célébrait la nature et faisait place dans les années 20 à l'art déco des années folles. Son style déclinait une élégance géométrique d'ébène et d'ivoire. On fêtait le retour en grâce de la technique et d'un modernisme prometteur que soutenait une croissance économique en plein élan. Dans l'univers d'un luxe sophistiqué, les paquebots sillonnaient les océans. 1929, un crash boursier inaugura la plus importante dépression du XXe siècle. Les braises fumantes de la Grande Guerre dispersaient encore leurs relents nauséabonds quand, 18 courtes années plus tard, l'embrasement général empesta de nouveau le monde. Les sabots du destrier rouge feu de l'apocalypse laissaient derrière eux plus de 60 millions de morts. Ils reposent dans l'obscurité opaque de cette nuit collective. Dans la Bible, en Apocalypse 6, verset 4, on lit ceci, « Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. » Entre ces deux fournaises, le chaos des années 30, durant lesquelles le père de Jean-Jacques vendait des journaux, se rappelant chaque jour que tous n'avaient pas cette chance, il ramenait les invendus à la maison sur lesquels Jean-Jacques se précipitait. Il s'intéressait à tout, mais les mots sont parfois compliqués à comprendre. Et chaque fois il aurait dû s'en souvenir, chaque fois qu'il en demandait à sa mère une explication, elle l'envoyait paître, en le traitant de plusieurs noms d'oiseaux non répertoriés dans l'ornithologie classique. Il faut dire qu'elle-même fut à bonne école. Son propre père, le grand-père maternel de Jean-Jacques, tenait un salon de coiffure. Deux ou trois fauteuils pour quelques clients. Mais son visage se reflétait plus souvent sur le miroir familier du comptoir des bistrots, où son image spéculaire se brouillait jusqu'à disparaître dans son propre oubli, emporté par l'ivresse devant ce zinc où les verres défilaient. Chaque nuit, à l'heure de fermeture des bars, il se retrouvait en équilibre précaire, plein comme un baril, dans le froid sommeil d'une ville endormie. Capitaine fantasque de ses bordées nocturnes, il pestait contre la houle, contre la gifle des embruns, et contre tous ces bars fermés à sa dérive. Et sa bouche engourdie s'encombrait de mots qu'incapable d'articuler il ne faisait que mâchouiller. Toutes les nuits, sous le crachin d'un ciel trop bas, la rue déserte amplifiait l'écho de son monologue inaudible et de son pas hésitant. Les sinueux méandres de sa marche incertaine le conduisaient, inexplicable boussole, jusqu'à son domicile. Toutes les nuits, le dos courbé, le nez sur la serrure, son trousseau de clés dans la main, il tanguait. Et toutes les nuits, le tintamarre de sa clé cherchant le trou de serrure, tirait sa femme d'un profond sommeil. Elle finissait par se lever pour ouvrir la porte. Quant à lui, marmonnant d'aigre rancune, il titubait jusqu'à son lit. Pendant ce temps, les enfants dans leur chambre chuchotaient pour conjurer la peur. Les draps remontaient jusqu'aux yeux, Achille scrutait la nuit. Son frère Georges, blotti contre lui, l'avait rejoint à pas de loup. Quant à leur sœur, médusée, elle n'osait plus un mouvement. Ils ne s'habitueront jamais à ces brusques réveils, ni aux insultes blessantes de leurs parents déchirés. Trois enfants qui trouvaient dans l'école un lieu de refuge. Chez eux, ils côtoyaient l'enfer. Jusqu'au naufrage qui engloutira le salon de coiffure que les huissiers saisiront comme le reste de leurs biens. Sur les gravats de ce monde fracassé se flétrissait sa mère. En le réalisant, Jean-Jacques ne lui en voulait plus pour ses insultes ou parfois son mépris. Il éprouvait même de la reconnaissance pour ces rares instants où sa mère nuançait de bienveillance son tempérament orageux. Elle en avait même oublié sa fatigue lorsqu'il grelottait sous les assauts d'une fièvre typhoïde. Veillant à son chevet nuit et jour, elle le soignait en l'enveloppant dans des draps tièdes. Souvent d'ailleurs, elle les descendait trempés de sueur, les lavait, en remontait d'autres, repassés et propres. Cet épisode a marqué sa mémoire d'enfant dans leur histoire commune, peuplée de mots d'une ornithologie bien mystérieuse. L'oncle Achille est venu plusieurs fois leur rendre visite à Caen, et Jean-Jacques se rappelle qu'il l'avait pris dans ses bras et le faisait sauter jusqu'au plafond. Il devait avoir 5 ou 6 ans. C'est le seul souvenir qu'Achille a laissé, un souvenir d'envol